Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
C'est un plaisir de vous retrouver, fidèle auditeur de Radio Képi, pour votre magazine Un jour, une histoire, qui s'intéresse aujourd'hui à Pierre Moulélé, ancien membre fondateur et secrétaire général du Parti solidaire africain, ancien ministre de l'éducation dans le gouvernement Lumumba. Il fut également ambassadeur du gouvernement de Stanleyville au Caire. Il a gagné Pékin après le conclave de Louvanium en 1962 et revint donc au Zaïre pour y animer le mouvement insurrectionnel et qui demeura donc dans le maquis de 1963 à 68, et puis il va finalement se rendre au Congo-Brazzaville où il fut transféré pour trouver la mort par assassinat à Kinshasa en octobre de la même année. C'est ce personnage qui nous intéresse dans ce magazine Un jour, une histoire. Pour en parler dans ce studio, nous recevons Célestin Fasso Mushigo. Il est député national élu de Gungu dans le Kwilu, également coordonnateur, opérateur culturel et coordonnateur national du Festival National de Gungu. Il a même plusieurs casquettes que nous allons citer tout au long de cette émission. Bienvenue à ce magazine. Au micro, Pamela Mounazomoilou. La prise de son est signée Patrick Kiasongwa et Jean-Marc Matuaki supervise.
Para, 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 para
Retour avec notre invité, M. Célestin Fasso Mouchigo. Bonjour.
Bonjour, madame.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Alors, aujourd'hui, la personne de Pierre Moulélé nous intéresse et nous aimerions donc faire découvrir aux auditeurs ce qu'il était vraiment et la lutte qu'il a dû mener tout au long de sa vie. Est-ce que vous pouvez d'abord, pour commencer, par nous parler de lui? Qui était-il exactement?
Bien, merci, madame. Pierre Moulélé, homme politique, élu du peuple et chef du mouvement révolutionnaire appelé Moulélé Maï. Pierre Moulélé est né le 11 août 1929 à Eyung-Matende, secteur de Lukamba, territoire de Gungu, en province de Kwilu.
D'accord, oui.
Ex-province de Léopoldville, ex-province de Bandundu, et fut exécuté la nuit du 2 au 3 octobre 1968. On va s'en dire plus. Moulélé est fonctionnaire, membre de la PIC, organisation syndicale qui a milité pour l'obtention de l'égalité des droits entre fonctionnaires blancs et fonctionnaires noirs.
Mais quel était finalement son combat?
Son combat, c'était justement de retrouver le nationalisme, de retrouver la fierté de l'homme congolais, de retrouver l'indépendance totale du Congolais face au colonialisme qu'il a eu à vivre pendant beaucoup de temps. Moulélé était militaire formé et puis il était devenu politicien, cofondateur du Parti solidaire africain PESA, qu'il dirigea avec le patriarche Antoine Gizenga. Aujourd'hui, c'est son anniversaire.
Ah d'accord, ok, c'est une belle coïncidence.
Nous lui souhaitons joyeux anniversaire et que le Dieu des ancêtres puisse lui accorder longévité, parce qu'on a encore besoin de lui. Alors, le PESA est d'orientation ou était d'orientation nationaliste. C'est ce qui est relayé par le PALU aujourd'hui. C'est le PESA qui amènera Moulélé Pierre à l'Assemblée nationale comme député élu, représentant les territoires de Gungu dans la province de Kwilu à l'époque, puis comme ministre de l'Éducation nationale au premier gouvernement du Congo indépendant sous Emery Patrice Lumumba, premier ministre, chef du gouvernement en 1960, dont il resta le lieutenant après la confiscation de leur pouvoir en septembre 1960. Moulélé, après avoir été ambassadeur et tout, reviendra au pays pour mener un mouvement insurrectionnel que nous appellerons la rébellion. Mais nous, nationalistes, nous continuons à appeler ça comme la révolution Moulélé.
Oui, mais parlez-nous justement de cette révolution Moulélé. Pourquoi avait-il, monsieur Célestin Fasso Mouchigo, Pierre Moulélé, avait-il pris cette initiative d'organiser cette rébellion? Est-ce qu'il y avait une cause ou une situation dans le pays à l'époque qui l'avait poussé à se rebeller? Quels étaient les facteurs, je dirais?
Oui, juste après les élections de 1960, et les nationalistes récupèrent le pouvoir sous la direction de Lumumba, qui était majoritaire au Parlement. En juin, 30 juin, jusque déjà en septembre, il y aura un coup d'État. Vous apprendrez qu'il y a eu révocation du président de la République par le Premier ministre, et la révocation du Premier ministre par le président de la République, une confusion s'installe sous l'instigation des colonisateurs. Parce que nous ne voulons pas vous ramener à des discours discordants qu'il y a eu le 30 juin entre le premier ministre, et Lumumba, et les discours du président, Kasavubu, et tout, ça a amené déjà une animosité. Alors, en soi, en fait, en septembre, il y a un coup d'État. Le pouvoir des nationalistes est confisqué par les impérialistes, et c'était le début de tout. Pratiquement, Gizenga prend la route pour Stanleyville, les suit là-bas. Finalement, il va en exil et ils ont dit commencer des mouvements de tractation pour pouvoir rétablir l'ordre. Donc, c'était déjà une insurrection pour venger les mouvements du colonisateur qui voulait installer encore une domination. Alors que nous étions déjà un Congo indépendant. Voilà pourquoi Moulélé et les autres amis vont prendre des directions pour pouvoir rechercher de voies et moyens de pouvoir récupérer le pouvoir.
Vous êtes à l'écoute de Radio Képi, c'est votre magazine Un jour une histoire qui se poursuit, magazine consacré à Pierre Moulélé. Nous en parlons avec M. Célestin Faso Mouchigo, il est député national élu de Gungu, il est opérateur culturel et coordonnateur national du festival de Gungu. Vous avez dit que tout à l'heure que Pierre Moulélé cherchait d'une manière ou d'une autre à réinstaller ou restaurer cet ordre qui avait déjà été établi, mais comment avait-il procédé finalement?
Oui, il a trouvé que la voix des armées était la meilleure pour pouvoir faire entendre sa raison.
Oui, mais tout en mettant justement en même temps en danger la population.
Oui, ça c'est parmi qui veut faire l'omelette peut casser les œufs. C'était arrivé à l'époque parce qu'il avait compris que beaucoup de nos compatriotes avaient été corrompus, avaient été rachetés par les colonisateurs. Voilà, quand il s'est exclamé, les colonialistes veulent nous imposer une nouvelle forme de domination. Une domination par l'intermédiaire de nos confrères congolais. Comment s'en sortir?
Et c'était quoi la méthode? C'était quoi sa stratégie?
Sa stratégie, c'était d'initier le maquis. Il a initié le système de maquis avec certains de ses compatriotes, dont Soumialo qui s'était installé à l'est de la République. Et lui a pris l'ouest vers le Kwilu.
Le maquis, c'est-à-dire se retirer vraiment pour pouvoir se préparer.
Aller se préparer dans la forêt. Alors, Moulélé s'est installé dans la province du Kwilu, en secteur de Lukamba, son secteur d'origine. Et il s'est installé à Iyung Matende, juste son village à Kimbanda. C'est là où il a commencé à former les jeunes. Ce qui est surprenant, c'est quoi? Il a fait appel à la jeunesse. Il a fait appel au genre, à des femmes. Moulélé a commencé son mouvement avec 150 mamans qu'il avait récupérées. En ce moment, la parité ne sonnait pas encore. Il a fait appel. Il a tenu compte de ces jeunes avec qui il a inculqué l'idéologie. C'était quoi le patriotisme? Ce patriotisme, il y avait la justice sociale. Il sentait qu'il y avait des gens, quand bien même on était indépendant, voulaient récupérer, s'accaparer de tout le bien-être, alors que la grande population était en train de souffrir. Alors, il a prêché la justice sociale, il a prêché l'auto-prise en charge par le peuple lui-même. Voilà pourquoi, là où il était dans les maquis, il a former des équipes partant de cette idéologie, partant de certaines méthodes, mais il avait donné une ligne de conduite assez valable, telle que, à un moment donné, il y avait certaines pratiques qu'il ne fallait pas du tout pendant les combats, les militants ou les partisans.
Mais puisque vous parlez du combat, justement, c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui l'avait poussé ou qui avait mis la puce à l'oreille, qui lui a dit, c'est le bon moment, ça y est, il faut se lancer?
Oui. Nous avions dit qu'il avait amorcé le processus de maquis. Il y avait un front de l'Est avec Soumialo et il y avait le front de l'Ouest dans le Kwilu où lui-même était en train de préparer. Il a recruté les jeunes, il a recruté les femmes qui avaient été préparées idéologiquement, qui avaient été préparées stratégiquement. Et le 19 janvier 1964, il a trouvé que l'heure avait sonné parce que ici à Kinshasa, le gouvernement qui avait confisqué le pouvoir, se préparait à s'attaquer déjà à ces mouvements qui se préparaient dans le maquis. Il ne fallait pas continuer à attendre. C'est alors que le 19 janvier, un dimanche, 1964, les groupes ou les partisans vont surgir à Gungu, à Idiofa et dans les autres coins de la République pour déclencher là le mouvement insurrectionnel. Mmh. Alors, moi, à ce moment, j'avais 7 ans.
Oui, mais vous étiez quand même lucide hein, à 7 ans.
Oui. Oui. J'avais 7 ans parce que j'embrassais déjà mon école primaire après l'école gardienne.
Et comment ça s'est passé? Ça a pris combien de temps?
Oui, ça a pris toute une année. Mmh. Nous, on croyait que c'était un mouvement qui allait passer. On était en route pour l'église avec mon grand frère, pour l'église Sainte-Famille, Bungu. Mais on a vu des gens habillés avec des armes pas habituelles, mais des flèches et tout, finalement.
Okay.
Ils s'étaient attaqués aux forces de l'ordre républicaines qui étaient sur terrain, basées à Idiofa, à Gungu, et c'était parti. Nous, on s'était retirés avec les parents, croyant que non, ils allaient s'amuser, après ça, nous reviendrons dans nos maisons. Non, ça a pris du temps. Ça a duré et il y a eu des gens qui étaient tombés. Le colonel Ebea, de triste mémoire, qui était envoyé à Gungu pour pouvoir mater cette rébellion, a été assassiné sur terrain par les militants, ou disons par les partisans de l'époque. Et c'était une grande victoire pour ceux-là. La rébellion s'est poursuivie, s'embraser pratiquement tous les territoires de Gungu. Mais ce qui est un peu dégueulasse, c'est le fait que le partisan qui passait sur les routes, il détruisait tout ce qu'il y avait comme infrastructure routière, infrastructure scolaire, infrastructure, et il exécutait le plus souvent toutes les personnalités soupçonnées d'être PNP, qui étaient proches des colonisateurs, proches de des autres qui avaient un bien-être social assez aisé. Voilà, cela s'était poursuivi et nous étions les victimes de tous ces mouvements-là.
D'accord, ok.
Donc, du 19 janvier 1964 au 25 décembre 1965, quand Mobutu va monter le coup d'État de novembre 1964, c'est alors qu'après cela, on nous sortira de là où nous étions cachés avec des parents pour revenir à la cité de Gungu où nous n'avions trouvé plus rien.
Tout était complètement détruit.
Tout était détruit. Pratiquement, les gens dormaient en plein air.
D'accord.
Donc, il fallait recommencer les efforts de reconstruction et de tout. Tout ce qu'il y avait comme tissu économique était cassé et tout. En dépit des bons ordres que Mulele avait donnés aux partisans, de ne pas voler, de ne pas détruire, de ne pas poser des actes d'adultère en ce moment, mais au moins, les partisans étaient partis au-delà pour maintenant commettre des dévis. C'est ce qui a été supposé être les causes de l'échec.
C'est la question que j'allais poser finalement. Il a mené, tel que vous expliquez ça, M. Célestin Fasso, je rappelle aux auditeurs que vous êtes notre invité avec qui nous parlons de Pierre Mulele. Tel que vous expliquez les causes de cette rébellion, elles avaient l'air normales, mais après, on se rend compte qu'il y a eu des dérapages, vous le dites, et au bout du compte, un échec. Qu'est-ce qui explique cet échec finalement?
Oui, l'échec, c'est quelque part le non-respect des consignes de lutte, telle que conçue par les leaders de ce mouvement au départ.
Et finalement, quel était le sort de Pierre Mulele après avoir perdu face au gouvernement en place?
Oui. Mulele Pierre, finalement, avait fondé, comme je vous l'avais dit, sur l'autosuffisance de ses armes. Il ne voulait pas compter sur l'extérieur, parce qu'il savait que l'extérieur pouvait facilement lui exiger certains comptes qui pouvaient remettre sa vision
en cause.
Alors, il a travaillé avec, rien qu'avec les petits moyens, dès qu'ils sont arrivés à la fin, il n'y avait pas d'appui tel qu'attendu de Brazzaville, parce que les nationalistes qui étaient basés à Brazzaville devaient venir à renfort à la rébellion qui s'exécutait à l'est par Soumialo et à l'ouest par Mulele Pierre, pratiquement sans recours. Finalement, il s'était affaibli. À la fin des comptes, il y a eu des divisions, des luttes internes.
Okay.
Telles qu'à Gungu, finalement, les amis et les différentes, parce que Gungu, Idiofa, ce sont des territoires presque occupés à majorité par les Pende et les Bunda. Mais par des stratégies peut-être des adversaires et tout, on est arrivé à opposer les Bunda et les Pende qui, quelque part, s'étaient battus et finalement, c'était déjà le manque d'unité, le manque d'union et ça a aidé Pierre Mulele à quitter le site de lutte pour se réfugier à Brazzaville.
Justement, c'est ce chapitre-là que j'allais dire. Comment il a fait pour se retrouver à Brazzaville?
Bon, c'est un stratège qui a eu le temps de passer par quelle voie là. Vous c'est et moi, nous ne serions pas
déterminés. Mais comment au moins, il a pu aller au-delà des frontières?
Il est parti après l'amnistie du 28 septembre 1968, signé par le président Joseph Désiré Mobutu à l'époque, pour que notre ami revienne.
Justement, j'ai plutôt l'impression que c'était le feu président Marien Ngouabi de l'époque qui l'a carrément livré au gouvernement congolais.
Nous, nationalistes, nous avions estimé et nous continuons à croire que c'était une amnistie piégée. Donc c'était une occasion pour le gouvernement congolais de l'époque d'en face de pouvoir livrer notre cher ami, notre stratège des nationalistes, les livrer juste aux mains des impérialistes représentés par Joseph Désiré Mobutu.
Vous avez tendance à dire notre, vous vous identifiez à lui.
Je suis un descendant de Pessa, le parti qu'il a eu à créer. Je suis du Palou. Le Palou, c'est la fusion de quatre partis. Le Parti Solidaire Africain, le Baloubakat, le CEREA et le MLC de Lumumba. Voilà. Je peux m'approprier de ça.
Alors, M. Célestin Fassou, on va justement cette fois évoquer dans cette émission ce chapitre combien douloureux lié justement à sa mort et puis à son rapatriement, je dirais. Finalement, l'amnistie a été accordée. Pierre Mulele rentre. Comment est-il rentré? Est-ce qu'il a été amené attaché ou il est rentré de son propre gré? Il a quitté Brazzaville pour Kinshasa. Comment ça s'est passé, cet épisode-là?
Je vous ai dit que le 28 septembre 1968, Mobutu signe l'amnistie. Pratiquement, Mulele pouvait facilement retourner sans crainte, sans quoi que ce soit. C'est ce qui va le pousser le 29 septembre à traverser, partant de Brazzaville pour Kinshasa.
De traverser sans problème, sans être inquiété.
Non, il n'y avait pas d'inquiétude et tout et tout. Mais nous savions qu'il était en fait contenu d'une manière ou d'une autre pour pouvoir atteindre Kinshasa. Et le 2 octobre 1968, le président Mobutu, revenant de son voyage du Rabat, Maroc, est briefé à l'aéroport par ce service que Mulele, de triste mémoire, était déjà revenu à Kinshasa depuis hier. En fait, depuis le 29 septembre. Il dit, Mobutu, en fait, Mulele est revenu. Mulele, en principe, ne peut pas survivre. C'est alors que Mobutu, fâché, va donner l'ordre pour que Mulele soit exécuté.
Il a été arrêté où?
Pardon?
Il a été arrêté où exactement, Mulele?
Bon, je ne saurais pas te donner, mais nous savons que Mulele était récupéré. En fait, était revenu à Kinshasa le 29 septembre. Gardez où vous et nous ne serions pas.
Le même jour, quand il arrive à Kinshasa, il est automatiquement récupéré et gardé dans un endroit secret.
Ça, c'est effectif.
Ok.
Mais les deux, c'est que nous savons, la nuit du 2 au 3 octobre, après le retour de Mobutu de Rabat, l'ordre a été donné à ce que Mulele soit exécuté. C'est que nous savons, il a été exécuté au Kankokolo.
D'accord, ok. Est-ce que sur base des sources que vous avez, est-ce que vous avez d'une manière générale des informations sur la manière dont il avait été exécuté?
On ne saurait pas vous les donner.
D'accord, ok. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de cet entretien. Mais est-ce que vous pouvez, vous avez quelque chose d'autre à dire ou à ajouter en ce qui concerne toujours cette personne de Pierre Mulele?
50 ans après la mort physique de Mulele, nous, nationalistes, nous continuons à croire que Mulele est resté vivant. Que Mulele est resté vivant comme Lumumba. Mulele est resté vivant comme Musée Laurent Désiré Kabila. Mulele est encore dans nos esprits, surtout à travers la vision de sa lutte. Nous disons le patriotisme, nous disons la justice sociale, nous disons l'auto-prise en charge. Nous voulons que toutes ces théories puissent être développées pour que le Congo soit un pays indépendant, qu'il soit un pays autonome, qu'il soit un pays qui peut vivre et survivre de ses propres richesses. Voilà le combat mené et poursuivi par certains nationalistes encore en vie et encore au pouvoir dans le pays. Nous en sommes l'illustration et nous poursuivons justement cette vision.
Je sais qu'on est pratiquement à la fin de notre entretien, mais il y a une question qui me taraude dans l'esprit, c'est de savoir si aujourd'hui il y a encore les séquelles ou les conséquences de cette rébellion à Gungu. Est-ce qu'on peut encore palper ça quand on visite cette partie de la République démocratique du Congo?
Oui, c'est palpable sur le plan négatif et sur le plan positif.
C'est-à-dire?
Sur le plan positif, nous vous disons que vous trouverez des nationalistes réels à Gungu qui peuvent encore compter, qui peuvent encore protéger le patriotisme, qui peuvent encore militer pour la justice sociale et qui peuvent encore travailler pour l'auto-prise en charge. Mais sur le plan négatif, nous sommes en train de condamner et de dire à la jeunesse, surtout à la jeunesse montante, de pouvoir protéger les infrastructures. Quel que serait le combat ou la lutte à mener, mais qu'on puisse protéger ce qui est déjà acquis, les infrastructures sociales, les infrastructures routières, les infrastructures scolaires, hôpitaux, qu'on les protège parce qu'un tien vaut mieux que Dieu tu l'auras.
Dieu tu l'auras. Voilà, c'est par ce message qu'on va mettre fin à cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, M. Célestin Faso Mushigo. C'était un plaisir de vous avoir dans Un jour, une histoire.
Oui, c'est moi qui suis fier de vous avoir rencontré aujourd'hui.
Merci.
Et parler
de Pierre Mulele,
de notre système politique, de nationaliste, qui est Pierre Mulele. Pierre Mulele et Pierre Mulele encore en vie.
Merci beaucoup. Et c'est par ici également que prend fin ce magazine Un jour, une histoire. J'espère que vous avez beaucoup appris sur la personne de Pierre Mulele. Merci à Patrick Kiesongwa qui a été à la prise de son micro, Pamela Mounazomoualou et Jean-Marc Amatoua qui a supervisé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.